première. Tout autre chose.
Véronique Thiberguien.
Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver à l'écoute de cette émission. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé, que vous avez bien dormi, puisqu'on va parler du sommeil aujourd'hui jusqu'à 11h30, avec bien sûr plusieurs pathologies, syndrome des jambes sans repos, syndrome des apnées du sommeil, les anomalies du sommeil liées à d'autres pathologies neurologiques, comme Parkinson par exemple, et certaines formes d'épilepsie de l'enfant dite cognitive, où il peut ne pas y avoir de crise diurne. Les troubles du sommeil sont donc décryptés ce matin avec vos interventions, avec vos questions, vos témoignages, mais aussi avec notre invité que je vous présente dans quelques instants. Tout autre chose, nous allons parler donc jusqu'à 11h30 des troubles du sommeil avec votre concours bien sûr, témoignages, questions, avis sont les bienvenus au 02 737 26 06 02 737 26 06 ou par courriel toutautrechose@rtbf.be. Vous pouvez aussi nous envoyer un message par SMS au 30 51 50 centimes le message. Pour parler des troubles du sommeil, je reçois notre neurologue à nous, c'est le docteur Catherine Gillin. Bonjour.
Oui, bonjour.
C'est vrai, vous venez déjà depuis un bout de temps maintenant l'émission.
Tout à fait, avec
quasiment
plaisir.
Dire que vous êtes notre neurologue de l'équipe de Tout Autre Chose. Oui, vous êtes venu nous parler du sommeil parce que, bien sûr, depuis plusieurs années maintenant, le 21 mars est la journée du sommeil. On va donc préparer cette journée et en reparler avec vous. Mais on peut peut-être commencer par définir qu'est-ce que c'est un bon sommeil. Parce qu'on le disait justement avec Jean-Pierre, c'est à la fois dormir beaucoup ou pas beaucoup. Ça dépend des personnes finalement.
Ça dépend des personnes. C'est vrai qu'on n'a pas, on n'est pas égaux devant le sommeil. Il y a des gens qui sont petits dormeurs, des gens qui sont gros dormeurs. Le bon sommeil, c'est le sommeil dit récupérateur, réparateur, c'est-à-dire que le matin, vous vous sentez frais et que la journée se passe sans accès de somnolence anormaux, avec une bonne vigilance et des bonnes capacités d'attention. Maintenant, le sommeil en soi, c'est une fonction physiologique extrêmement importante pour nous, êtres vivants. C'est une fonction, en fait, qui se retrouve chez tous les mammifères, mais aussi chez les oiseaux et les reptiles, figurez-vous.
Ah oui.
Oui. Et en fait, elle est aussi essentielle que le fait de respirer, de manger, de bouger. Et elle se caractérise par un état donc physiologique, c'est-à-dire naturel, qui est périodique, qui est quotidien et qui se détermine par une suspension de la vie de relation, mais suspension réversible, bien sûr. Et ce sommeil dépend en fait de deux choses essentielles. D'une part, ce qu'on appelle le rythme circadien, qui est notre horloge biologique interne, et d'autre part, ce que l'on appelle le régulateur homéostatique, c'est-à-dire la dette de sommeil qu'on accumule au fur et à mesure de la journée. Et notre horloge biologique interne, on va le voir dans les différentes pathologies, et justement en quoi c'est récupérateur ou non, est vraiment une fonction essentielle pour le maintien d'un équilibre correct.
Fonction essentielle, mais fonction relativement fragile finalement.
Une fonction effectivement très fragile parce que dépendant de beaucoup de facteurs internes et externes, le sommeil peut être perturbé parce qu'on est tracassé par quelque chose et donc l'état de vigilance reste trop éveillé. Il peut être perturbé par des maladies, qu'elles soient métaboliques, rhumatismales, cardio-respiratoires ou neurologiques. Et puis le sommeil peut être perturbé par une anomalie intrinsèque au sommeil lui-même, parce que le sommeil est quelque chose de très particulier. C'est des modifications parfaitement reproductibles au niveau de l'activité du cerveau,
oui,
et des modifications reproductibles de pratiquement tous les organes du corps. Et ça, notamment au niveau cérébral, il peut y avoir des altérations de ce qu'on appelle les cycles du sommeil qui entraînent effectivement, à ce moment-là, des perturbations de la qualité du sommeil.
Les cycles du sommeil dont vous avez parlé, est-ce que c'est une évidence chez l'enfant, par exemple? Parce que on a l'impression que c'est quelque chose qui s'acquiert et qu'on essaye, en tant que parent, de pouvoir donner le mieux possible aux petits-enfants, aux jeunes enfants. Est-ce que c'est quelque chose d'évident ou c'est véritablement quelque chose qu'il faut initier?
Les deux. C'est-à-dire que les cycles du sommeil en soi sont toujours parfaitement reproductibles, enregistrables à l'électroencéphalogramme avec des caractéristiques qui leur sont propres. En fait, on a, très brièvement, après le stade d'endormissement, on a le stade 1 de sommeil, qui est un sommeil lent, léger, avec une activité électroencéphalographique encore relativement rapide, et quelqu'un qui commence à se détendre, à avoir une respiration calme, régulière, le cœur ralenti, etc. Ça dure à peu près une dizaine de minutes. Et puis, on passe en stade de sommeil lent profond, qui sont les stades... Donc, le stade 1 d'endormissement, le stade 2 de sommeil lent superficiel, et puis le sommeil lent profond, les stades 3 et 4, qui en soi est le sommeil récupérateur et qui est caractérisé par des ondes très ralenties et très régulières, c'est important pour certaines pathologies, qui durent environ 20 à 40 minutes. Et puis, le fameux stade du sommeil paradoxal, paradoxal parce qu'à la fois le patient est tout à fait, le sujet est tout à fait atonique, c'est-à-dire sans aucun tonus musculaire, mais en même temps, il a des mouvements des globes oculaires qui se voient bien sous les paupières, d'où le nom anglais de REM, de Rapid Eye Movement, le sommeil REM, et qui est le sommeil durant lequel on rêve, et qui finalement ne dure pas longtemps, il dure 4 à 8 minutes, au terme duquel, pouf, on recommence un nouveau cycle. Alors ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la proportion des cycles est différente avec l'âge. Chez l'enfant, on a beaucoup plus de sommeil profond récupérateur, et au fur et à mesure que la maturation cérébrale se met en place, chez l'âge adulte, on a une proportion classique, et puis avec l'âge, diminue le sommeil lent récupérateur et augmente le sommeil lent plus superficiel avec beaucoup plus de micro-réveils et donc finalement des nuits plus courtes et moins récupératrices. Alors, ça, c'est ce qui est physiologique. Mais quand vous dites qu'il faut l'apprentissage, c'est tout à fait exact. Et ça revient à ce que je parlais tout à l'heure de notre horloge biologique interne. Donc l'horloge biologique interne, elle a besoin d'indicateurs de temps. L'indicateur de temps principal, c'est l'alternance lumière-obscurité. Ça, c'est le plus important. Et on va le voir pourquoi d'ailleurs maintenant les gens sont en dette de sommeil. Puis... les autres indicateurs de temps sont les activités, le fait d'avoir une activité physique ou intellectuelle, mais aussi le bruit, les heures de repas qui doivent être régulières et les heures de mise au lit et de lever qui doivent être régulières. Donc c'est exact que aux bébés et aux petits enfants, plus vous serez strict dans l'apprentissage d'une mise au lit régulière et d'un lever régulier et de repas réguliers et si possible rapidement de dissocier l'alimentation nocturne, justement, d'essayer de sevrer rapidement les biberons de la nuit pour apprendre cette horloge biologique interne. Mmh. Ça, c'est essentiel, effectivement.
On parle du bébé, mais au fond, même nous, en tant qu'adultes, on disait on n'est pas égaux devant le sommeil, mais on connaît des phases. On n'est jamais un grand ou gros dormeur ou un bon dormeur tout au long de sa vie. Il y a des moments où le sommeil est troublé par des petites choses, des moments de la vie, des moments de l'année aussi. Par exemple, cette période-ci de l'année, c'est toujours une période où on se sent plus fatigué parce que le sommeil semble être un peu plus troublé aussi du fait des cycles que l'on connaît. Les vieilles personnes aussi, les personnes plus âgées, ont du mal à trouver un sommeil réparateur. Donc, on a ces phases de troubles de sommeil régulières et assez naturelles finalement.
Tout à fait naturel, parce qu'effectivement, ça dépend, comme vous le disiez, de beaucoup de facteurs externes. Et puis, ça dépend effectivement de l'âge. Donc, avec l'âge, le sommeil a un degré de récupération qui passe à peu près de 90% vers 40 ans à seulement 70% après 65 ans. Plus le fait que avec l'âge, eh bien, il y a justement des troubles cardiovasculaires, il y a des douleurs arthrosiques, il y a beaucoup de choses qui peuvent éveiller les patients. Et puis, il y a beaucoup de pathologies qui augmente avec l'âge, et on en parlera certainement. Le syndrome des apnées du sommeil qui atteint pratiquement 50% au troisième âge. Le syndrome des jambes sans repos qui sont vraiment des perturbateurs majeurs de la qualité du sommeil, tout à fait.
Et ce ne sont malheureusement pas les seuls, c'est ce qu'on verra aussi dans cette émission. À partir de quand peut-on considérer qu'un trouble du sommeil est un trouble grave, dont il faut absolument tenir compte par rapport à des troubles plus légers qui apparaissent à des périodes de notre vie, des périodes plus de stress ou ce genre de choses?
À partir du moment où, justement, il y a une certaine permanence. On peut tous être victime de quelques insomnies aiguës, comme on le disait, dues à des phénomènes extérieurs ou internes. Mais quand ça devient plus systématique et que ça s'installe, effectivement, on parlait tout à l'heure de la dette de sommeil. Donc la dette de sommeil s'accumule et finalement, cette harmonie qui doit exister entre notre horloge biologique interne et l'accumulation de dette de sommeil, elle est tout à fait perturbée. Ce qui est naturel, c'est que votre dette de sommeil commence à tirer la petite sonnette en fin de soirée, quand normalement justement le soleil se couche, que les bruits s'atténuent, etc. et que votre horloge biologique vous dit il est temps de dormir. Mais si vous récupérez mal, si vous avez un sommeil non récupérateur, vous allez accumuler cette dette de sommeil et finalement on arrive vraiment à des perturbations du fonctionnement diurne. Ce sont des gens qui ont des difficultés d'attention, de concentration, des troubles de mémoire, des céphalées. Il y a beaucoup d'accidents de la route ou accidents du travail qui sont dus à des perturbations du sommeil. On estime que plus de 20% des accidents sont dus à ça. C'est quand même extrêmement important. Donc c'est un phénomène de société vraiment essentiel.
On n'y fait pas assez attention ?
Non, certainement. Pour deux raisons. D'une part, le patient lui-même, comme il dort, entre guillemets, donc il essaye de dormir, il se bat un peu, il sait bien qu'on peut avoir de façon naturelle un peu trop du sommeil. Oui. Donc il y a beaucoup de gens aussi qui refusent de voir cette problématique, entre guillemets, refusent, je mets des guillemets quand même, c'est assez inconscient. Et puis malheureusement aussi, sans doute qu'il y a des médecins qui ne poussent pas assez l'interrogatoire. Qui ne reçoit pas de patient qui se dit « Oh docteur, je dors mal » et qui sort sa prescription de benzodiazépine qui au contraire va déstructurer le sommeil et qui va d'ailleurs entraîner beaucoup plus de problématiques. Mais en fait, toute perturbation du sommeil mérite une investigation spécifique. Ça, c'est vraiment essentiel.
Liven, par exemple, est boulanger. Il a donc un horaire très difficile. Il dort 5 heures par nuit et le week-end seulement 3 heures. À la longue, ne va-t-il pas avoir des problèmes de santé ?
Si.
C'est une question qu'on se pose, évidemment.
Si, certainement. Certainement.
Ça arrive souvent avec des gens, justement, qui ont eu un horaire difficile ou un travail difficile tout au long de leur vie, de connaître une accumulation de problèmes et de troubles du sommeil.
Absolument.
Par la suite.
C'est une très grosse problématique que ces horaires difficiles tels que ce boulanger, les horaires coupés, aussi, que ce soit au niveau des infirmières, de certains ouvriers, etc. Ça perturbe justement complètement les cycles naturels et ça entraîne une dette de sommeil absolument considérable qui, elle, peut entraîner d'autres types de problématiques parce que le sommeil, ça sert à quoi ? Mais finalement, le sommeil est essentiel. On a un petit peu l'impression, dans notre jargon, on dit ça doit être récupérateur. Mais qu'est-ce que ça veut dire récupérateur ? Ça veut dire que, bon, comme on le disait tout à l'heure, tout notre corps participe. Il y a beaucoup de variations hormonales. Il y a des variations au niveau cardiaque. Il y a des variations au niveau de la tension artérielle, au niveau de la fonction respiratoire, au niveau gastro-intestinal. Enfin, tout le corps participe à la qualité du sommeil. Alors, il y a certainement un rôle dans la plasticité cérébrale. On sait que durant le sommeil lent, superficiel, il se passe des modifications au niveau des protéines cérébrales elles-mêmes. Il y a un rôle au niveau de l'immunité. Or, on sait que, bien sûr, la qualité de notre immunité nous permet de fonctionner correctement. Et alors, il y a un rôle tout à fait passionnant qui n'est pas encore extrêmement bien précisé, mais dont on est certain, c'est qu'il y a un rôle de renforcement des programmes génétiques. Donc, en fait, durant le sommeil, on développe, si vous voulez, on engramme notre expérience génétique pour inscrire l'hérédité des comportements. Donc, il est évident que si on pouvait retrouver des gens qui ont vécu il y a 500 ou 1000 ans, nous ne serions plus les mêmes, non seulement parce que la société n'est pas la même, mais parce qu'on a progressivement inscrit nos comportements dans nos gènes. Et ça se fait la nuit. Et c'est tout à fait indispensable.
On devrait plus parler d'un sommeil constructeur que d'un sommeil réparateur.
Absolument. C'est tout à fait constructeur. Et alors, c'est tellement vital que quand on fait des tests de privation de sommeil, bon, on l'a fait chez les gens sans pousser jusqu'au bout, évidemment. On est allé loin. Ils ont tenu 11, 12 jours sans dormir, mais avec des altérations de leur fonctionnement cortical quand même important. Mais l'expérimentation animale qu'on a fait sur des chats qui n'avaient évidemment rien demandé pour ça, mais enfin bon, les pauvres, on a privé des chats de sommeil. Systématiquement, en les réveillant, c'est terrible, on les mettait sur une planche sur l'eau. Vous savez que les chats ont horreur de l'eau. Donc chaque fois qu'ils s'endormaient, qu'ils allaient tomber dans l'eau, ils se réveillaient. Mais finalement, ces pauvres bêtes sont mortes. Donc, si on est vraiment privé de sommeil, on en meurt. C'est aussi vital que ça.
Ah voilà. Eh bien, dites, je propose que sur cette note, on fasse une petite pause. 02 737 26 06 pour vos questions. 02 737 26 06. Vous pouvez aussi nous envoyer une question ou un témoignage par courriel à toutautrechose@rtbf.be, tout autre chose écrit en un seul mot, ou un message par SMS au 30 51 50 centimes le message. Dans quelques instants, je vous propose de retrouver Stéphane Clerget, qui est pédopsychiatre. Il nous parlera des troubles du sommeil de l'enfant. Comme ça, on passera aux troubles du sommeil de l'adulte juste après. Tout autre chose. Nous parlons du sommeil avec nos auditeurs qui réagissent au 02 737 26 06 ou par courriel, tout d'autres choses, @rtbf.be. Un message par SMS également au 30 51 50 centimes. Le message, Eric, qui est un auditeur qui a beaucoup d'humour. Notre invité connaît-elle l'histoire du lit vertical? C'est vraiment une histoire à dormir debout, nous dit-il. Je suppose que vous la connaissiez, Catherine Gillin. Stéphane Clerget, lui, il a de l'humour aussi, mais c'est pas pour ça qu'on l'avait interrogé ce jour-là. Il est pédopsychiatre, vous le connaissez, il est déjà passé plusieurs fois dans l'émission et il est publié chez Albin Michel, Maintenant, tu restes dans ton lit, et nous parle des troubles du sommeil de l'enfant.
Bon, les troubles les plus fréquents des troubles du sommeil chez l'enfant, c'est certainement les troubles anxieux. Le tout petit, il a du mal à être autonome finalement. La nuit, c'est long pour lui et il a du mal à être séparé de ses parents. Et là, surtout la crainte finalement de ne pas retrouver ses parents à son réveil. Donc il y a cette anxiété-là qui fait qu'il a du mal à aller au lit le soir et qui fait que quand la nuit, quand il se réveille, il a besoin d'aller vérifier si ses parents sont bien là. Les troubles anxieux génèrent aussi des cauchemars et qui sont plutôt normaux entre 3 et 4 ans. Les toutes premières années, c'est assez fréquent, les troubles du sommeil. Ensuite, entre 6 et 10 ans, c'est plus rare. Et du coup, s'ils existent, ça nécessite davantage une prise en charge. Au moment de la puberté, à l'adolescence, ça réapparaît. Et là, c'est aussi pour... Il y a d'autres raisons. Les troubles anxieux existent. Mais là, cette fois, l'adolescent n'a pas peur, non pas de ne pas retrouver ses parents au réveil, mais il a peur de ne pas se retrouver lui-même, tellement il y a une époque de changement. Et d'inquiétude sur toutes les transformations qui s'opèrent en lui.
Ok, donc l'endormissement est vraiment une séparation.
Oui, l'endormissement est une séparation pour le petit qui est difficile pour l'enfant, mais on voit aussi qu'elle est parfois difficile pour les parents. Parce que même finalement, investissent pas très bien le sommeil. Le sommeil aujourd'hui a mauvaise presse, on n'aime pas tellement se coucher. Et d'ailleurs, on se couche de plus en plus tard. Hein. On dort 2 heures de moins qu'au début du 20e siècle. Hein. Donc peut-être qu'on se fatigue moins physiquement, mais en tout cas, on a toujours besoin de sommeil, hein. C'est important pour le développement. Et on n'aime pas finalement aller se coucher. Et du coup, l'enfant le sent bien, on se couche de plus en plus tard. Donc l'enfant nous imite un petit peu. Et c'est vrai que quand les parents ont du plaisir à aller dormir, quand c'est une vraie joie pour eux, eh bien en général, les enfants ont également aussi du plaisir à aller se coucher. Donc c'est important aussi d'apprendre à retrouver le plaisir d'aller au lit. Et pour ça, il faut évidemment aménager bien aussi sa chambre. Faut investir en tant que parent sa chambre, en faire une pièce agréable, un lieu agréable. Et aussi, évidemment, aménager la chambre des enfants, que ce soit pas un endroit angoissant, que ce soit un endroit calme, apaisant, où l'enfant a du plaisir à se rendre.
D'après vous, est-ce qu'un enfant a sa place dans le lit parental?
Alors, le lit des parents, c'est a priori pour les parents. L'enfant a son lit, donc c'est aussi comme ça qu'il apprend son indépendance. Maintenant, moi, je suis pas non plus trop strict. Je veux dire, les premiers mois, l'enfant peut être dans la chambre des parents, mais ça veut pas dire dans le lit des parents. Quel intérêt qu'il soit dans le lit? Il peut être dans un berceau les premiers mois, dans la chambre des parents, surtout si on a besoin de l'allaiter. Dans ce cas, il est à proximité. Et puis, plus il grandit, plus il peut aller comme ça dans son espace à lui, en sachant qu'une nuit c'est long et que s'il se réveille au milieu de la nuit, faut pas hésiter à aller le voir et à le rassurer, ce qui ne veut pas dire le prendre et l'amener dans son lit, mais lui rappeler qu'on est là. Donc moi je suis pas favorable au co-sleeping, mais je suis par contre favorable au co-dodo, et il peut y avoir comme ça des temps un peu informels, par exemple au petit matin, ou les temps de sieste, et ça peut être un moment agréable où on dort au contact peau à peau comme ça avec son enfant. C'est pas ça qui va le traumatiser, et ça, encore une fois, ça donne un côté un petit peu agréable au sommeil. Maintenant, vers 4-5 ans, l'enfant comprend que dans le lit il se passe des choses et que c'est aussi le lieu de l'intimité des parents, et qu'il a envie lui aussi de faire un petit peu couple avec ses parents. Donc c'est important pour cette raison-là, pour son développement affectif, de lui dire non, cette intimité-là tu ne peux pas l'avoir avec nous, tu l'auras plus tard avec la personne avec qui tu partageras ta vie, mais ça pourra pas être tes parents.
Il y a un rituel du coucher.
Oui, c'est important le rituel des couchers. Les petits ont besoin de ça. Les rituels, ça a pour mission d'apaiser les angoisses, quelles qu'elles soient d'ailleurs, dans toutes les formes d'angoisse. Et le rituel du coucher, justement, ça rappelle à l'enfant la permanence des choses. Donc toujours le même rituel, et c'est bien aussi qu'on se couche à peu près à la même heure. L'enfant a besoin de positionner ses petites chaussures à tel endroit, tel objet à tel endroit. Comme ça, le matin, quand il se réveille, il voit que les choses n'ont pas changé, que le monde n'a pas changé. Et du coup, il est rassuré. Pendant la nuit, tout ne s'est pas transformé. Parce qu'il a peur des changements. La nuit, il y a plein de changements, il y a des rêves, tout se transforme. D'ailleurs, Morphée, hein, vous savez, aller dans les bras de Morphée. Dans la mythologie grecque, Morphée, c'est le fils d'Hypnos, le dieu du sommeil. Et le Morphée, il a des ailes et il se transforme en différents personnages qui occupent nos rêves. Donc cette notion de transformation et sommeil est très liée. Et c'est pour ça que les enfants ont peur. Et c'est pour ça que les petits rituels qui marquent une permanence, quelque chose de fixe, eh bien, ça rassure. C'est la permanence qui rassure face aux transformations de la nuit.
Et que faire face à un enfant qui se réveille terrorisé en pleine nuit ?
Eh bien, il faut aller le voir et l'apaiser. Alors, soit il se réveille parce qu'il a fait un cauchemar, hein, soit il se réveille sans cauchemar, mais il est terrorisé parce qu'il ne voit plus. Donc, il faut aller lui rendre visite, l'apaiser, lui dire voilà, telle heure il est, maman est là, papa est là, nommer tous les membres de la maison, bien rappeler leur place. Et s'il a fait un cauchemar, lui faire parler du cauchemar, de quoi tu as rêvé, et ensuite on l'embrasse. On peut remettre en place des petits rituels pour qu'il se réendorme si besoin. Maintenant, c'est important aussi, parmi les conseils qu'on peut donner, d'habituer l'enfant à la nuit aussi. Vous savez, pendant l'été, on peut manger dehors la nuit, pour pas qu'il ait peur de la nuit. On peut jouer aussi à Colamaya, pour que la nuit soit pas forcément synonyme d'angoisse pour lui.
Une angoisse donc que l'on peut gérer, Stéphane Clerget et son ouvrage chez Albin Michel. Maintenant, tu restes dans ton lit. Alors, Catherine Gillin, qu'en pensez-vous ?
J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Tout ce qu'il a dit est parfaitement exact par rapport à la rythmicité du sommeil et aussi au fait de rassurer l'enfant sur le sommeil. J'ai beaucoup apprécié quand il a dit que le comportement des parents, évidemment, était une image pour l'enfant. Et c'est sûr que des parents qui apprécient aller dormir et qui donnent au sommeil sa juste place va plus donner envie à l'enfant de faire pareil que l'inverse. Et par rapport, j'aimerais rebondir sur le fait qu'il a précisé qu'on avait perdu 2 heures de sommeil sur un siècle, c'est tout à fait exact.
Et mais comment ça se fait ?
C'est depuis l'avènement, en fait, de l'électricité, des lumières. Parce qu'en fait, le marqueur principal pour notre horloge biologique, c'est l'alternance lumière-obscurité. Oui. Dans le temps, quand il n'y avait pas de lumière, qu'est-ce qui se passait ? Il y avait le coucher du soleil avec cette pénombre tout à fait progressive, le crépuscule. En même temps, les bruits s'atténuaient, les animaux allaient aussi se mettre au repos avant de dormir, etc. Et tout devenait plus confiné, plus intime. Et progressivement, votre horloge biologique vous annonçait que vous alliez vous endormir et vous étiez prêt à aller dormir beaucoup plus tôt et de façon beaucoup plus spontanée que maintenant. Que se passe-t-il maintenant ? Pourquoi nos adolescents sont effectivement en dette de sommeil majeur ? Mais on garde des lumières, d'ailleurs, très vives, très tard. On garde beaucoup de stimulus, on chatte toute la soirée avec les copains, ou bien on reste sur la télévision, on sort dans des boîtes avec musique forte, on discute, on papote. Et puis, on se dit, tiens, on va aller dormir. On se couche et on voudrait que ce soit juste un interrupteur. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible. On demande beaucoup trop à notre cerveau et notre horloge biologique interne n'a pas eu le temps encore de s'adapter à ça. Ça, en plus, le fait que les parents, justement, ne sont pas assez rigoureux pour le maintien de mise au lit correcte, je suis un petit peu effaré de voir que j'ai des petits patients qui sont à l'école primaire et qui vont au lit vers 10-11 heures. Et en humanité, ça dépasse largement minuit. Comment voulez-vous que ce soit possible d'apprendre à dormir correctement ? Et donc, ça a des répercussions considérables. Et derrière tout trouble de l'apprentissage, il faut rechercher une pathologie du sommeil. Donc, réhabiliter aussi le sommeil. Combien de fois on entend des gens qui vous disent « le sommeil, c'est une perte de temps ». Bien sûr que non. Bien sûr que non, il faut en faire un moment privilégié, un moment justement, c'est un ami, c'est pas un ennemi quoi.
Xavier demande, puisque vous parliez d'aller coucher tard, si le sommeil décalé est préjudiciable pour la santé. Lui, il se couche à 3h du matin mais se lève à 9h.
Il y a toute une polémique par rapport, vous savez, nos grands-mères disaient les heures avant minuit comptent double. C'est pas faux. Et ça, c'est lié, en fait, aux sécrétions hormonales principalement et aux modifications de température. En très rapide, il y a une hormone essentielle pour le sommeil qui est la mélatonine, hein, qui en fait n'est presque pas sécrétée quand il y a de la lumière et qui commence à sécréter le soir et son pic maximal est à 3 heures du matin. Donc c'est vraiment l'hormone synchroniseur de notre horloge biologique et de notre rythme circadien qui est très importante pour le sommeil. Il y a aussi les sécrétions du cortisol qui a un pic vraiment important à 2 heures du matin, et la température qui est très basse à ce moment-là. Et donc, semble-t-il, c'est assez vrai en tout cas, qu'entre minuit et 2 heures, il soit intéressant d'être déjà en train de dormir. Mmh. Maintenant, s'il a un horaire systématiquement décalé et qu'il n'a pas de répercussions dans sa qualité de vie une fois qu'il est éveillé, on ne peut pas vraiment le lui reprocher. Mais si c'est de temps en temps et puis qu'il doit essayer de se remettre en phase après, là, il aura du mal.
Donc il vaut mieux rester, quoi qu'il arrive, sur un rythme le plus naturel possible, oui, en phase avec, oui, les phases nocturnes et diurnes.
Oui, tout à fait.
On le disait, on va parler dans quelques instants des apnées du sommeil avec un témoignage. Je voudrais que l'on parle, puisqu'on en a peut-être encore aux enfants, à parler des épilepsies. C'est vous qui m'avez fait découvrir ce phénomène, des épilepsies donc, qui sont totalement nocturnes.
Alors, c'est très, très intéressant et très important. Parce qu'en fait, durant le sommeil, il y a précisément certains stades où l'activité électrique devient particulièrement régulière, presque, oui, synchrone. Et en fait, une épilepsie est très sujette à ça. L'épilepsie, en soi, ce sont des charges électriques synchrones du système nerveux. Il y a certaines formes d'épilepsie qui, effectivement, ne surviennent que la nuit. Il y a des formes bénignes, ce qu'on appelait avant l'épilepsie à pointe rolandique, qui est un syndrome, en général, la fin de la grande enfance, début de l'adolescence. Dans la première partie de la nuit, c'est un enfant qui a une espèce d'éveil dont il n'est pas conscient, avec des mouvements du visage, essentiellement de mastication, de déglutition, et puis il se recouche et tout rentre dans l'ordre. Il a très rarement des épilepsies, des crises d'épilepsie la journée, et c'est une épilepsie qui guérit le plus souvent spontanément. Donc là, on ne se tracasse pas. Par contre, il y a des épilepsies qui sont dramatiques, ces fameuses épilepsies cognitives, qui se manifestent beaucoup plus tôt, c'est plutôt la petite enfance, entre 3 et 6 ans, et ce sont des enfants qui, la journée, ne présentent pas toujours de l'épilepsie, même assez rarement, mais chez qui on voit une dégradation des acquis, donc des apprentissages qu'ils ont déjà acquis, et des difficultés scolaires et des troubles du comportement. Souvent aussi des altérations du langage. Quand on fait un électroencéphalogramme de journée, on peut ne rien voir de particulier. Et quand on fait un électroencéphalogramme de nuit, on voit de façon typique des anomalies au niveau du sommeil lent. On appelle ça les pointes ondes continues du sommeil lent, des POCS. Et ces POCS sont extrêmement destructrices. On pense justement qu'elles altèrent complètement cette engrammation dont je vous parlais tout à l'heure, et donc ça altère le développement des fonctions cognitives qui peut mener à de l'autisme, à de la démence, enfin à des enfants extrêmement handicapés. Les POCS en soi, donc les altérations épileptiques, elles disparaissent spontanément avec l'adolescence, mais les troubles cognitifs par contre ne sont jamais rattrapés. Mmh. Donc il faut penser à demander un électroencéphalogramme de nuit chez tout enfant qui ait une régression de ses acquis et une altération de ses apprentissages. C'est vraiment essentiel.
Ça arrive fréquemment ?
Fréquemment non, heureusement, mais c'est pas si rare que ça. J'en ai personnellement plusieurs dans ma patientèle. Donc c'est vrai que, évidemment, c'est plus les épileptologues sans doute qui les voient. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont sous-diagnostiqués aussi.
D'autant que l'enfant ne se plaint pas d'un manque de sommeil. Il a d'autres plaintes dans la journée, mais certainement pas celui du manque de sommeil.
Non, parce qu'en plus, ce ne sont pas forcément des décharges épileptiques qui éveillent l'enfant.
Oui.
Donc, il n'y a pas apparemment de troubles du sommeil. Mais on peut les enregistrer durant les nuits et se rendre compte alors de la perturbation gravissime qui est en cours. Le problème aussi, c'est que c'est très difficile à traiter. On a peu de traitements et les traitements ne sont pas toujours efficaces.
Donc, traitement d'épilepsie traditionnel ne fonctionne pas.
Non. Donc, c'est vraiment des choses auxquelles il faut penser, qui sont tout à fait majeures pour l'évolution de l'enfant.
On va revenir dans quelques instants sur un trouble qui concerne de plus en plus de personnes, ce sont les apnées du sommeil. On va en reparler avec un témoignage que je vous propose de retrouver dans quelques instants.
Tout autre chose, nous parlons sommeil dans cette émission avec vos questions, vos témoignages et votre avis qui peuvent bien sûr nous arriver par téléphone, par courriel ou par SMS. Vous connaissez maintenant les numéros. Et j'accueille par téléphone, puisqu'il a réagi lorsque nous avons fait notre petite demande de témoignage, j'accueille le docteur Wolverts. Bonjour. Allô, vous m'entendez bien, docteur? Eh bien, on a perdu le docteur, donc je pense qu'on le rattrapera dans quelques instants, qu'on va essayer de le rappeler. Le docteur qui donc souffre d'apnée du sommeil, il nous en parlera dans quelques instants. Je dis ça que ça se concerne quand même un très grand nombre de gens maintenant, les apnées du sommeil.
Alors, ça concerne vraiment un grand nombre de gens et surtout, je pense, c'est beaucoup mieux diagnostiqué qu'avant. Mm-hmm. Donc en gros, on a plus de 10% de la population générale qui en est atteinte. Ça peut aller de 2 à 8% chez l'enfant. 25% après 65 ans et dans certaines populations jusque 50%, notamment les gens obèses et surtout les hommes.
Ah oui, de plus les hommes que les femmes, donc.
Plus les hommes que les femmes.
Ça se manifeste comment, ces apnées du sommeil?
Alors, en fait, la fonction respiratoire durant le sommeil, enfin, tout court, la fonction respiratoire tout court dépend d'un contrôle dit métabolique et d'un contrôle comportemental. Mm-hmm. Le contrôle métabolique, ça, c'est un contrôle qui dépend de certaines cellules spécialisées dans le système nerveux central qui sont sensibles au taux d'oxygène, au taux de CO2 et ce qu'on appelle au pH, donc à l'équilibre acide-base, et qui va agir directement sur les muscles respiratoires. Le contrôle comportemental, lui, c'est un contrôle qui dépend plutôt du cortex frontal, donc qui est plus développé phylogénétiquement et qui fait une adaptation automatique en fonction des activités qu'on a. Alors, c'est facile à comprendre quand on est éveillé, quand on est bien présent. Toute défaillance du système métabolique est tout de suite contrecarrée par le contrôle comportemental. Par contre, une fois qu'on dort, mm-hmm. ce contrôle comportemental disparaît, mais le contrôle métabolique ne peut être vraiment compétent que si le sommeil est bien respecté. Donc il y a à la fois l'œuf et la poule dans l'histoire. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on s'endort, d'une part, on est sur le dos le plus souvent ou sur le côté. Et comme on l'a dit, il y a une baisse du tonus musculaire, donc du tonus musculaire général, mais aussi des voies respiratoires et notamment des voies respiratoires supérieures. Le pharynx devient beaucoup plus mou et il y a une résistance, si vous voulez, progressive qui s'installe au phénomène inspiratoire. Et lorsque on a un syndrome des apnées du sommeil, on peut avoir des apnées soit obstructives d'origine ORL supérieure, donc les voies respiratoires supérieures, soit d'origine cérébrale, parce que le cerveau est sensible justement à la tenue d'oxygène, et dès que la tenue d'oxygène diminue, il peut faire un blocage respiratoire transitoire. Donc on a deux types d'apnées prépondérantes dans le syndrome des apnées du sommeil, mais qui est donc plus fréquent avec l'âge, parce qu'aussi le tonus musculaire est moins élevé chez les personnes âgées, plus fréquent chez les personnes obèses parce que la graisse se met non seulement au niveau du ventre et des cuisses, mais beaucoup aussi à l'intérieur de la paroi du pharynx et des voies respiratoires supérieures, à l'intérieur de l'aluette, et donc il y a un collapsus beaucoup plus facilement atteint chez les personnes de ce type.
Docteur Wolverts, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Oui. Vous habitez dans la région d'Écossine, oui. Et vous nous avez contacté donc parce que vous souffrez d'apnée du sommeil. Oui. On va en reparler avec vous. Vous, en fait, tout a commencé à la suite d'un événement de votre vie particulièrement stressant puisque vous avez divorcé. À la suite de ce divorce, vous avez pris du poids. On en parlait de l'importance du poids dans les apnées du sommeil. Mais vous avez mis un très long moment avant de découvrir que la fatigue dont vous souffriez dans la journée pouvait être due aux apnées du sommeil. Comment ça se fait? Vous êtes docteur.
Oui, c'est-à-dire que donc la nuit je ronflais avec des brusques réveils en transpiration, et alors la journée je m'endormais à tout moment devant les patients en voiture et lors des cours de recyclage, et alors je mettais, disons, cette somnolence sur le compte du surmenage. Donc en 2000, ma femme m'a quitté pour faire face aux problèmes financiers, donc j'ai travaillé davantage sans prendre de vacances. Et alors, je suis devenu boulimique. Mmh. Et alors, après 3 ou 4 ans, donc j'ai présenté une obésité morbide, je suis passé de 85 kilos à 135 kilos et j'ai développé une hypertension artérielle. Et alors, c'est lors des cours de recyclage, donc, où je m'endormais. Un confrère qui avait présenté le même problème et qui pensait être, qui était toujours fatigué, qui s'endormait et qui par ailleurs était mince, comment pensait avoir le cancer ou le sida, se faisait des prises de sang tout le temps. Et un jour, au matin, en se levant, il a présenté des troubles de parole. Et alors sa fille lui a dit « Écoute, papa, tu fais un accident vasculaire cérébral, j'appelle le SAMU. » Et alors à l'hôpital, on a fait un bilan, une mise au point. Lui ne pensait non plus pas être atteint d'un syndrome d'apnée du sommeil. C'est lors de ce bilan donc qu'on lui a prescrit une CPAP. Oui. Et alors il m'a dit « Écoute, tu cours un risque mortel, je te conseille d'aller voir un spécialiste. » Et alors depuis lors, ma vie est transformée, donc je ne m'endors plus. Et alors je n'imagine plus dormir sans CPAP. C'est comme si on me demandait de prendre ma voiture sans ceinture de sécurité. Et alors moi, je pense que que j'ai été faussé dans mon diagnostic suite à mes problèmes familiaux et suite à mon surmenage. Quoi. Et alors il faut dire que j'ai 55 ans, disons, à notre époque, on n'était pas suffisamment sensibilisé à ce type de problème.
Au fond, vous avez mis ça sur le compte du stress et de ce que vous viviez à ce moment-là.
Je me dis, c'est parce que je ne prends pas de vacances, que je travaille de trop, je remplaçais davantage de médecins, je prenais davantage de gardes, etc. Et alors, je mettais ça sur le compte du surmenage physique et psychologique.
Sauf que les conséquences auraient pu être graves, puisque vous êtes médecin, vous vous déplacez en plus, puisque vous êtes en zone rurale, vous vous déplacez beaucoup en voiture, et que vous m'avez dit au téléphone que vous avez quand même failli avoir un accident. Vous êtes quand même un peu miraculé aussi de ce côté-là.
Écoutez, quand je devais aller chercher mon fils au Limbourg, je mettais 3 heures aller-retour, je devais me faire accompagner de quelqu'un et m'arrêter 3 ou 4 fois pour soit m'endormir ou alors prendre un café ou déambuler. Et depuis que j'ai la CPAP, je fais ça d'une traite et je ne dois plus avoir quelqu'un dans la voiture.
Alors la CPAP, pour bien réexpliquer, c'est un appareillage dont vous vous dotez pendant la nuit afin de pouvoir respirer au mieux, qui vous envoie de l'influx d'oxygène.
Non, pas de l'oxygène, de l'air sous pression positive.
D'accord.
Pour empêcher comment le phénomène d'apnée du sommeil.
C'est une espèce d'attelle pneumatique.
Une attelle pneumatique. Oui. Mais est-ce que, alors on peut s'imaginer, on le voit l'appareillage, mais vous préférez ça à ne pas revivre ce que vous avez vécu finalement?
Maintenant je suis frais comme un gardon, le soir comme le matin, quoi. Hein, je ne prends plus de sieste, rien du tout. À telle enseigne, je devais parfois demander à certains patients chez lequel que je connaissais particulièrement bien de pouvoir un petit peu dormir un quart d'heure à 20 minutes dans le fauteuil, donc c'est vous dire. Mais ici, non, ma vie a changé radicalement. Et alors, je pense que c'est dû essentiellement à mon obésité. Quoi.
On va revenir avec vous, docteur Gillin, sur ces aspects. Merci beaucoup, docteur Wolvers, d'avoir témoigné. En plus, vous m'avez dit que maintenant, vous les détectez mieux chez les autres.
Absolument.
Aussi, ces apnées du sommeil.
Oui,
vous y pensez.
Absolument.
Et donc, ça peut aider tout un chacun. Merci beaucoup, docteur, d'avoir témoigné dans cette émission. Au revoir. Alors, Catherine Gillin, on le voit, est-ce qu'une perte de poids toute simple pourrait arranger largement les choses, ou bien il faut quand même envisager un traitement plus lourd?
Non, la perte de poids peut arranger, peut améliorer certaines personnes, et c'est vrai que c'est la première mesure qu'on leur propose.
Mais c'est pas systématique, c'est ça?
Mais c'est pas systématique. Il y a des gens qui ont un syndrome des apnées du sommeil qui sont tout minces, hein.
Comme son collègue l'était.
Oui, tout à fait. Maintenant, c'est vrai que c'est un véritable problème de santé publique qu'on commence seulement à bien le connaître. C'est aussi grâce à l'avènement de la polysomnographie. On n'a pas parlé de cet examen encore, mais rapidement. Donc, il existe actuellement des moyens de diagnostic très très précis des troubles du sommeil, où on enregistre le patient durant toute une nuit, non seulement au niveau de son électroencéphalogramme, mais aussi au niveau cardiaque, au niveau respiratoire, au niveau abdominal, au niveau des mouvements des jambes, etc. Et ça permet d'identifier la problématique du patient, et notamment, en l'occurrence, dans le syndrome des apnées du sommeil, ça permet de les quantifier, de voir la répercussion sur la fragmentation du sommeil, et donc de savoir si, au départ,
On va y revenir dans quelques instants sur ces somnographies, parce qu'elles permettent aussi de détecter bien d'autres choses. On va reparler de différents syndromes. Ce sera juste après les informations de 11h.
première. Tout autre chose.
Les troubles du sommeil, donc, avec notre invitée, le docteur Catherine Gillin, qui est neurologue. On en parle aussi avec vos témoignages. Alors, c'est marrant parce qu'on peut regrouper certains témoignages. Beaucoup se posent la question de savoir si la sieste, c'est bon pour la santé ou pas. Et puis, il y en a d'autres qui sont épatés de voir à quel point leur conjoint, leur ami, leurs parents arrivent à s'endormir d'un seul coup, dans la seconde. Ils se couchent et pouf, ils s'endorment. Et parfois, ont un sommeil même récupérateur au bout de peine un quart d'heure. On les envie beaucoup, ces gens-là. Mais est-ce qu'on a raison de les envier, les gens qui s'endorment tout de suite quand ils se couchent? Ils se mettent au lit, ils ferment les yeux et hop, on n'en parle plus.
Oui.
D'accord. Oui. Je vous dis, ouais, allez, on pourrait les plaindre un petit peu.
Non.
Pour les envier, mais non, même pas. La sieste, donc. Est-ce qu'on doit faire la sieste dans la journée? Est-ce que c'est conseillé ou...
Il y a des pour et il y a des contre.
C'est fou quand même.
Comment?
Je dis c'est fou. Même pour la sieste, il y a des
même
pour
la sieste,
contre.
Oui. Semble-t-il quand même une petite sieste après le repas, de toute façon, c'est assez naturel, assez physiologique, c'est pas contre-indiqué. C'est vrai que théoriquement, une sieste courte est plus récupératrice. Pourquoi? Parce que, semble-t-il, ce sont des gens qui parviennent à passer très vite en sommeil profond et en sommeil paradoxal, et donc avoir un sommeil particulièrement récupérateur, et diminuent donc aussi leur dette de sommeil, mmh. et donc parviennent à dormir correctement la nuit. Par contre, si vous faites des siestes trop prolongées ou des siestes à des moments inopportuns, vous perturbez votre horloge biologique et vous accumulez quand même, enfin, vous diminuez justement très fortement votre dette de sommeil. Donc ça, c'est pas vraiment indiqué. Par contre, justement, des phénomènes de somnolence importants la journée doivent en tout cas faire rechercher une pathologie du sommeil. Et si on revient quand même brièvement au syndrome des apnées du sommeil, c'est vrai que classiquement, ce sont des gens qui consultent plus pour leur somnolence la journée que pour les ronflements. On l'a bien vu chez ce confrère qui lui-même ne prêtait pas attention à ces ronflements importants. Donc c'est beaucoup des problèmes de somnolence la journée, de fatigue qui s'accumulent, et aussi ça, ce sont des gens qui vont voir leur généraliste ou qui vont voir leur pneumologue, mais nous neurologues on les voit beaucoup pour les problèmes de maux de tête et les problèmes de troubles d'attention que les patients appellent des troubles de la mémoire. Et ça, c'est tout à fait significatif. Et j'ai beaucoup, beaucoup de patients qui sont venus consulter pour cette raison-là, me disant « Oh là là, j'ai un Alzheimer, c'est pas possible. » Et finalement, on a découvert un syndrome des apnées du sommeil. Donc, ce sont des symptômes auxquels qu'il ne faut pas du tout négliger. Pourquoi? J'aimerais le dire tout de suite. Le syndrome des apnées du sommeil provoque une fragmentation vraiment dramatique du sommeil, mais aussi, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup, beaucoup de répercussions au niveau des paramètres cardiaques et des paramètres d'hypertension artérielle, provoquant à terme une hypertension artérielle qui s'installe, provoquant des troubles du rythme cardiaque, avec un risque évident d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral.
Oui, donc,
si on regarde les gens qui ont fait un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral, chez 60% de ces patients, on retrouve un syndrome des apnées du sommeil. Donc c'est quelque chose d'essentiel à diagnostiquer et à traiter. Alors cette fameuse CPAP, elle fait un petit peu peur aux gens, mais comme l'a bien démontré ce témoin, les patients eux-mêmes ressentent un tel bénéfice qu'ils le mettent le plus souvent avec plaisir.
Françoise est infirmière, pardon. Son mari a des apnées et un poids très important. Il est important pour les gens qui souffrent de ce problème de perdre du poids et d'avoir une bonne alimentation avant de commencer un traitement. De plus, ceux qui sont sous traitement doivent impérativement avoir un papier du médecin pour les assurances qui montrent bien qu'ils sont suivis et soignés. Michel, son mari Lucien, avait de grandes difficultés à ne pas être fatigué le matin car il ronflait énormément. Il a passé des examens, on lui a donné deux appareils respiratoires. Il ronflait moins, mais le vent produit par les machines l'a dérangé beaucoup. Son mari a finalement décidé de continuer à ronfler. Il était également gros mangeur, il a décidé de faire un régime et a perdu beaucoup de poids. Depuis, il ne ronfle plus, nous dit-il. Voilà, tout est assez lié finalement aussi à une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie.
Oui, mais ce qui est pervers dans l'histoire, c'est que quand vous avez un syndrome des apnées du sommeil, vous avez la perturbation d'une protéine qui provient du tissu adipeux et qui vous donne une intolérance au glucose et donc une prévalence au diabète. Donc il y a une espèce de cercle vicieux qui s'installe considérablement et c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de traiter le tout. La bonne alimentation sûrement, mais le masque aussi. Et c'est vrai que le masque, la CPAP, on voit des gens qui maigrissent rien qu'avec la CPAP sans faire de régime.
Et comment ça se fait? Parce qu'il dormait mieux?
Mais oui, tout à fait.
Ah oui,
donc, et donc, tout se remet en route, dont ces troubles de hormonaux. Mmh.
Mariée depuis 40 ans, je ne dors plus bien car mon mari présente des troubles du sommeil depuis environ un an. Il crie très fort, me donne des coups violents, tombe du lit, lance son oreiller ou ses couvertures et ne se souvient évidemment de rien. Je précise qu'il est tout à fait normal durant la journée, mais s'endort très vite dès qu'il se met dans un fauteuil à n'importe quel moment de la journée. Il est en bonne santé, il a 63 ans, cela se soigne-t-il? C'est une question de Rosalie.
Alors c'est un problème essentiel. C'est un trouble du sommeil paradoxal qui fait partie des parasomnies. Donc les parasomnies, ce sont ces phénomènes moteurs, mentaux, verbaux qui surviennent au cours du sommeil et qui sont classés selon le stade. Dans les parasomnies, on a ce qu'on connaît classiquement, les cauchemars, le somnambulisme, les terreurs nocturnes, etc. Mais les troubles du comportement, ce sont des troubles qui surviennent par une perturbation du sommeil paradoxal. Alors, effectivement, ils sont toujours très impressionnants. C'est des gens qui parlent, qui crient, qui se lèvent, qui ont classiquement des mouvements très brusques et des comportements violents, comme s'ils mimaient, si vous voulez, une espèce de combat, avec agression vis-à-vis d'eux-mêmes ou vis-à-vis du conjoint, qui peut aller jusqu'à des blessures graves, vraiment graves. Alors, quand c'est en état relativement aigu, il faut rechercher une intoxication à un médicament ou à l'alcool ou à certains autres toxiques. Mais quand c'est en chronique, surtout à cet âge-là et surtout chez l'homme, il faut quand même se méfier de l'apparition éventuelle d'une dégénérescence au niveau du système nerveux central et plus particulièrement les maladies de Parkinson. En fait, on sait que cela peut précéder de 2 ans les premiers symptômes cliniques moteurs de la maladie de Parkinson.
Ce seraient donc des signes nocturnes de ce type-là.
Des signes annonciateurs de ce qu'on appelle les synucléopathies, dont font partie la maladie de Parkinson. Et c'est vraiment essentiel d'être très attentif. Moi, je proposerais quand même à ce patient de faire justement un examen de sommeil et de voir un neurologue.
Pour éventuellement écarter ce type de problématique. C'est important de voir à quel point on ne doit pas négliger ces petits soucis de sommeil et qu'on ne doit pas éventuellement mettre ça. Parce qu'on a beaucoup de témoignages par rapport au ronflement, par exemple, de gens qui trouvent que c'est finalement assez anodin, ça dérange peut-être leur conjoint ou leur conjointe, mais qu'on s'en accommode très bien et qu'on sait que c'est un petit problème de poids ou autre, mais que c'est pas très grave. Alors que tout trouble du sommeil, vous le montrez bien, peut signifier autre chose et que donc ça n'est pas à prendre à la légère. Peut-être pas consulter tout de suite en clinique aux urgences, mais au moins y réfléchir et être très attentif.
Il faut y réfléchir, il faut en parler à son médecin traitant et il faut surtout pouvoir donner une bonne observation. Alors c'est vrai qu'il y a les ronflements physiologiques. Tous, si on est sur le dos, comme on est sur le dos et qu'on a une atonie des muscles, on peut avoir un petit ronflement transitoire qui ne doit jamais être majeur et qui doit disparaître dès qu'on se met sur le côté.
Oui.
D'emblée. Si vous avez par contre des ronflements plus tonitruants et surtout si vous avez des ronflements avec ces fameux blocages respiratoires, là, il faut toujours consulter. Toujours. Parce que on est peut-être en train de commencer une pathologie réelle. Mmh. Et toute perturbation du sommeil, je veux dire, justement, regardez ces troubles du comportement durant la nuit, qui sont impressionnants. Mais chez quelqu'un de 60 ans, c'est tout à fait anormal. Par contre, si vous avez un enfant de 3, 5, 6 ans qui se lève ou qui, en criant, qui a le regard tout à fait affolé, qui pleure, qui crie, qui s'agite, ce n'est pas grave, ce n'est pas dangereux. C'est un réveil confusionnel ou une terreur nocturne. Ce sont des troubles qui sont liés au développement, à la maturation cérébrale et qui ne grèvent absolument rien de l'avenir de l'enfant. Donc c'est vrai que ça dépend aussi du contexte et de l'âge.
Je ne savais pas qu'il y avait un tel lien quand même entre le sommeil et les maladies neurodégénératives dont on parle depuis.
Il y a un lien tout à fait évident, pour plusieurs raisons. Évidemment, par toutes les répercussions que cela peut avoir. Quand vous avez une maladie de Parkinson, pour reparler d'elle, vous avez une perte de la mobilité, donc vous avez moins de facilité de vous retourner dans votre lit, par exemple. Donc ce sont des gens qui se réveillent chaque fois qu'ils essayent de se retourner, et vous avez pratiquement systématiquement un syndrome des jambes sans repos, on en reparlera plus tard. Mais aussi, il y a des perturbations inhérentes à l'altération des neurones. On a la même chose aussi dans la maladie d'Alzheimer. De façon tout à fait typique, ce sont des gens qui, évidemment, dorment moins bien puisqu'ils ont moins d'activité, d'éveil, comme on les a décrits tout à l'heure, mais aussi qui ont une altération neuronale qui fait qu'ils perdent la rythmicité de leur cycle. Ils ont finalement une déstructuration massive du sommeil et les maladies d'Alzheimer ont ce qu'on appelle le syndrome crépusculaire. De façon typique, quand le soir arrive, ils commencent à s'agiter, à déambuler, à chipoter partout et ça dure comme ça. Ils font des rangements dans leur maison jusque 3, 4, 5 heures du matin et puis seulement ils vont se coucher. Ce sont des choses dont il faut tenir compte parce qu'effectivement, comme ils ont une dette de sommeil, ils vont encore aggraver leurs troubles de la vigilance diurne. Donc, il faut essayer de leur maintenir une certaine activité la journée quand même. Essayer autant que possible de traiter le sommeil, mais sûrement pas avec des benzodiazépines, avec d'autres types de traitements.
Parlons maintenant de ce syndrome des jambes sans repos et on reparlera de la narcolepsie en fin d'émission, puisque c'est déjà une pathologie beaucoup plus rare. Nicole nous a contacté déjà deux reprises. Elle est présidente, en fait, de l'association belge du syndrome des jambes sans repos qu'elle a créée en juin 2007, qui est une association qui travaille en lien avec l'association française, qui est déjà en place depuis un moment. Elle a été en souffrance durant 4 ans sans savoir ce qui lui arrivait. Elle ne savait plus dormir. Ses jambes avaient besoin de bouger sans cesse. Elle ne savait pas que c'était neurologique. On lui a donné des antidépresseurs, pas forcément recommandés pour ce type de problème. Elle a ensuite consulté un spécialiste à Liège et retrouvé une bonne qualité de vie suite à un bon traitement. On a eu un autre témoignage aussi. C'est ça qui me surprend, c'est qu'on en ait quand même deux qui parlent de ce type de syndrome qui semble finalement pas si rare que ça. C'était Françoise qui nous a appelé aussi, Jacqueline qui nous a appelé pour nous signaler aussi à quel point il était difficile de poser un diagnostic tant visiblement les généralistes ne connaissaient pas bien ce syndrome. Alors, ce syndrome des jambes sans repos, que se passe-t-il en fait? Les jambes sont en activité malgré, au détriment de ce que l'on voudrait faire, à savoir dormir.
Oui, c'est exact. C'est un syndrome qui n'est pas encore assez connu et puis, une fois de plus, qui est un peu banalisé par les gens. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Ils ressentent une sensation désagréable dans les jambes, parfois aussi d'ailleurs dans les bras. Ces sensations désagréables de type crampes, tensions internes, brûlures, les obligent à les bouger. Alors, ils commencent à les frotter l'une sur l'autre, à se mobiliser, à s'agiter dans le lit, voire même à se lever, à marcher sur du froid, à mettre de l'eau froide, etc. De façon, comme le dit leur terminologie, sans repos, ça débute ou s'aggrave en repos ou lors d'une inactivité. Et c'est donc plus sévère le soir lorsque vous vous allongez, que vous essayez de vous détendre pour vous endormir, mais cela peut arriver aussi lorsque vous êtes assis de façon prolongée, dans un avion, à une réunion, etc. Et le fait de bouger les jambes peut partiellement améliorer la symptomatologie. Donc c'est un syndrome qui est très invalidant parce que non seulement il est désagréable, mais aussi parce que si on parvient à quand même dormir, ça provoque ce qu'on appelle des micro-réveils. C'est-à-dire que même si vous n'en avez pas conscience, vous avez des réveils répétés et par exemple lors d'une polysomnographie chez une patiente, on a quand même trouvé qu'elle s'éveillait 480 fois sur la nuit.
Oula, tout à fait. Sans s'en rendre compte.
Vraiment s'en rendre compte. Quelques éveils plus importants dont elle avait un petit souvenir, mais beaucoup de micro-réveils.
Et donc, il n'y a jamais de repos.
Et donc, finalement, on a un sommeil complètement déstructuré et effectivement, une fatigabilité la journée avec ce qu'on disait, la triade, des maux de tête, troubles d'attention, de concentration. Alors, ce syndrome des jambes sans repos, il peut être idiopathique dans notre jargon, ça veut dire sans raison connue, bien qu'il y ait un substrat génétique évident. On en retrouve dans les familles, il y en a plus chez les jumeaux homozygotes. Mais aussi, il peut être symptomatique de quelque chose. Alors, il faut rechercher des choses aussi bénignes, enfin, apparemment, qu'une anémie ferriprive, même sans anémie, un taux de ferritine trop bas peut tout à fait provoquer un syndrome des jambes sans repos. Et donc, corriger correctement le taux de ferritine, corrige la symptomatologie.
Donc une simple prise de sang peut
déterminer... Et donc chez toute personne qui se plaint de ça, on commence par faire une prise de sang, bien sûr, pour voir. Avec, d'après la publication des Français assez récente, il faut même shooter les gens, je dirais, au fer, c'est-à-dire amener au-delà d'une norme, si vous voulez refaire vraiment une bonne réserve en fer. Alors, de façon typique aussi, c'est très très gênant chez les gens qui sont en insuffisance rénale, et dialysés vous en parlerez vraiment sans problème. Et alors c'est très très souvent un signe évocateur d'une polyneuropathie qui s'installe. Or la polyneuropathie est très fréquente aussi avec l'âge. On est habitué à ce que la personne perde l'audition, donc qui est, si vous voulez, une atteinte du nerf auditif, mais on a aussi une dégradation des nerfs des jambes qui est assez commune avec l'âge. Et donc c'est un syndrome qui est plus important au fur et à mesure que l'on prend de l'âge. Il faut aussi chercher du diabète, il faut chercher des troubles thyroïdiens, des troubles rhumatismaux, des troubles... Oui,
il y a à vous entendre, beaucoup... le traitement ne doit pas être évident à trouver et à correctement être adapté d'une personne à l'autre.
Donc en fait, le traitement doit être symptomatique si on trouve une origine. Mm-hmm. Et alors, comme traitement spécifique, qu'est-ce qu'on a ? On a trouvé en fait que c'était dû aussi à une perturbation de la dopamine. Alors cette dopamine, c'est cette fameuse molécule qui intervient, qui est déficitaire dans la maladie de Parkinson. Et donc quand on donne à ces patients les médicaments que l'on donne dans la maladie de Parkinson, ils sont très améliorés. Avec des petites réserves, c'est qu'ils peuvent avoir des phénomènes de rebond le matin. Donc il faut choisir un traitement adapté avec ce qu'on appelle une longue durée de vie. Et c'est vrai que ça améliore considérablement le sommeil de ces patients-là.
J'ai trouvé mieux que les 480 réveils ou micro-réveils dans la nuit. Oui. J'en ai 850
par
nuit. C'est David. Il a 35 ans. Il a un enfant. Il habite Bruxelles. Il a consulté il y a 3 ans pour un trouble récurrent du sommeil dû à des contractions musculaires au niveau des jambes. Plus de 850 par nuit, donc, nous dit-il. J'ai passé 2 nuits à l'hôpital. On m'a prescrit les mêmes médicaments pour que pour les gens traités Parkinson. C'était aussi la conclusion de Jacqueline. Le résultat, malheureusement, pour lui est peu probant puisque c'est plus ou moins l'équivalent au somnifère. Et le problème était que le lendemain, il avait le cerveau en léthargie, nous dit-il. J'ai déménagé, j'habite maintenant en Wallonie, dans un silence complet, puisque j'habite dans les bois et je redors enfin, nous dit-il. L'environnement fait beaucoup et on ne plonge pas directement dans les médicaments. Est-ce que l'environnement peut jouer effectivement un rôle dans ce type-là?
Comme cofacteur, oui. Si déjà il y avait d'autres raisons et que, je veux dire, via l'énervement, l'anxiété, ça peut jouer. Alors, le syndrome des jambes sans repos peut être atténué si on fait un exercice physique durant la journée, mais pas juste avant de dormir, évidemment. Mais donc, c'est vrai que peut-être, j'ose imaginer que s'il est à la campagne, non seulement il est plus dans le calme, mais il marche peut-être plus qu'avant aussi. C'est possible.
On va accueillir, si vous le voulez bien, quelqu'un qui ne souffre pas du syndrome des jambes lourdes et il ne souffre pas de troubles de sommeil non plus. Bien que, nous a-t-il expliqué, il n'avait pas forcément toujours un bon sommeil. Jean de Seng, bonjour. Vous m'entendez bien ?
Allô ?
Oui, bonjour Jean de Seng, vous m'entendez bien ?
Oui, je vous entends bien.
Vous nous avez contacté pour nous parler non pas de vous, mais de votre papa, qui était atteint de narcolepsie. Il a été diagnostiqué en 1925. Et à l'époque, on appelait d'ailleurs pas ça la narcolepsie, mais l'encéphalite léthargique. On connaissait peu de choses sur la maladie, mais avez-vous dit, et la médecine s'en préoccupait assez peu. On ne développait pas de traitement. On disait souvent que votre papa était un cas. Mais le manque d'infos et la méconnaissance de la maladie ont fait en sorte que la vie de votre papa largement été compliqué, d'autant qu'il était ouvrier, vous m'avez dit, donc il travaillait dans le bâtiment et j'imagine que les moments d'endormissement dans la journée n'ont pas dû faciliter la vie.
Oui, en effet, c'était bien sûr mal vu, comme c'était mal vu dans l'entourage, comme c'était mal vu par les petits camarades d'école qui demandent, quand ils demandaient qu'est-ce que papa fait, etc. Donc il était au chômage, en fait.
Il se faisait régulièrement renvoyer, vous m'avez dit, de son travail à cause de ses périodes d'endormissement. Et comme on ne connaissait pas la maladie, il n'y avait pas de reconnaissance sociale non plus.
Il n'y avait pas de reconnaissance sociale, il n'y avait pas d'accompagnement de l'intéressé, mais non plus de la famille. Il n'y avait pas d'indemnité, forcément. Il y avait surtout un isolement général et un appauvrissement aussi, parce qu'on ne roulait pas sur l'or, évidemment.
Comment ça se passait pour lui dans la journée ? Il s'endormait régulièrement ?
C'est ça, donc il n'avait absolument pas de régularité. Il s'endormait à n'importe quand et dans des conditions curieuses, en mangeant un potage, il s'arrêtait à mi-hauteur et la mère ou bien nous lui disions, ben écoute, va dormir, quoi. Mm. Comme il aurait pu s'endormir sur une échelle quand il travaillait, quoi, aussi. Hein. Mm. Et puis, il s'éveillait en pleine nuit, il faisait des frites en pleine nuit, il avait sa vie à lui, en marge totale même de la petite famille, quoi. Mmh.
Votre vie de famille n'était pas évidente non plus, puisque du coup c'était votre maman qui devait assurer les revenus familiaux et souvent même la plus grande partie de l'intendance familiale, ce qui à l'époque n'était pas forcément évident. On n'est pas du tout dans la libération de la femme à cette époque-là, donc même là socialement et pour la famille c'était dur à vivre.
Mais oui, parce que finalement, ben, je crois que il ne devait pas tellement aimer que sa femme soit chef de famille, que sa femme, que tout dépend d'elle, que lui dépend directement d'elle. Nous, enfants, pu vivre ça un petit peu à distance, moi surtout parce que j'ai été élevé ailleurs, pour d'autres raisons. Mais je crois que ma sœur a vécu ça de beaucoup plus près que moi, au jour le jour. J'ai de toute façon vu ça à partir de 12 ans, parce qu'il avait en plus les apnées dont vous venez de parler. Donc il dormait à part, parce que ma mère devait tout de même se partir travailler tous les matins. Il dormait, il y avait une chambre à part et on entendait à travers la porte des étranglements ferrales, etc. Enfin, en plus, donc.
Je vous ai demandé s'il y avait parce qu'on parle souvent d'un terrain génétique, si vous-même vous aviez des problèmes de sommeil. Vous m'avez dit, j'ai pas de gros problèmes, mais je suis pas un gros dormeur.
Voilà. Donc, en fait, moi, je dors 5 à 6 heures. À travers toute ma vie, et dès la minute où je m'éveille, donc souvent très tôt le matin, je suis efficace et j'ai été plutôt un hyperactif que quelqu'un de, je vais pas dire de normal, mais enfin, donc point de vue rythme, il n'y a jamais eu de problème pour moi, en fait.
Votre fille est petite dormeuse aussi, vous m'avez dit.
Voilà, c'est ça. Donc il y a 3-4 symptômes dans la famille. Ma fille aînée est petite dormeuse. Dans la famille de ma sœur, il y a l'un ou l'autre aussi, un fils qui s'éveille beaucoup la nuit. Elle-même est là pour le moment. Des troubles de sommeil, mais on ne sait pas très bien si ce n'est pas plutôt d'ordre de vie personnelle.
En tout cas, je vous remercie beaucoup, Monsieur De Sogne, d'avoir témoigné dans cette émission pour nous parler de la narcolepsie de votre papa. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de la première. Alors, docteur Gillin, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, la narcolepsie, c'est relativement rare quand même. Hein.
C'est rare, ça touche 0,03% de la population. Et en fait, c'est une perturbation des systèmes générateurs et modulateurs du système veille-sommeil, qui a effectivement un substrat génétique, d'ailleurs qui touche beaucoup de chiens, se transmettant sous forme autosomale dominant. Oui, beaucoup les dormeurs, les labradors et certaines autres races, qui permet d'ailleurs des études chez eux. Et donc ce sont des gens qui ont un sommeil perturbé. Ils ont une répartition tout à fait anormale du sommeil lent, profond la nuit et du sommeil paradoxal. Et la journée, ils ont des accès de sommeil direct en sommeil paradoxal, qui sont irrésistibles et restaurateurs, survenant en général aux mêmes heures, plusieurs fois par jour. En plus d'une somnolence et d'automatisme gestuel ou de parole.
Vous savez quoi, il ne reste que 10 secondes. Oui. Je vous propose qu'on en reparle dans une deuxième émission consacrée au sommeil. Je fixe rendez-vous aux auditeurs de toute façon le 21 mars pour la journée du sommeil. Merci docteur et à bientôt.
Merci à vous.